Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer une magnifique émission. On va se régaler pendant 2 heures. Déjà, j'ai des gens indisciplinés sur le plateau qui arrivent. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous dire le casting du jour qui ne respecte pas les règles, le règlement ici. Mais c'est pas Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous. Bah ça va, c'était très chic aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais...
Il a rendez-vous avec Nasser.
Bon, bah, écoute, alors, la première nouvelle. Alors, vous êtes avec Emmanuel Petit.
Salut Manu.
Bien sûr.
Bonjour tout le monde.
Bien sûr qu'on peut rigoler.
Ah, on plaisante, mais raison. Je le dis sur le temps de la plaisanterie.
Je pense qu'en ce moment. Non, mais ça aurait pu être possible.
C'est vrai que t'es élégant.
Mais je pense qu'en ce moment, il a d'autres choses à voir.
Je pense que. Sincèrement, mon avis.
On est sur deux styles vestimentaires différents entre Manu et Jérôme.
Hein. Vrai, plaît pas,
on est sur une veste de costume chez Jérôme et
écoute, un gilet sans manches chez Manu. En fait, ça, parce que c'est un peu bizarre, non?
Bah viens, pose ta...
Tu veux que je te touche?
Ouais, vas-y, viens. Viens, tu verras, tu vois, c'est très agréable.
Bon, on est... Suleiman Diawara va arriver d'ici quelques secondes, hein. Il est en train de se garer, donc il arrive, voilà, il y a de la circulation à Paris aujourd'hui. Ouais. On a un grand programme dans Roten sans flamme.
S'il grille le feu à côté, là, c'est normal qu'il l'arrête.
Ah non, il faut pas. Justement, il respecte les limitations de vitesse, donc il sera là dans quelques secondes. Allô Jérôme, oui. À 18h45, l'événement de la soirée, c'est ce quart de finale de Coupe de France entre Marseille et Toulouse.
Ah oui.
On sera avec Franck Passy, ancien coach de l'OM,
Franck.
Le dernier entraîneur qui a emmené l'OM en finale de Coupe de France. Et bien, il sera avec nous justement pour nous parler de la pression marseillaise. Rendez-vous à 18h45. Un débat qui va vous parler à tous les deux à 19h, suite à la phrase de Ruud Gullit. Est-ce que le foot est devenu horrible? Il ne peut plus regarder le foot actuel. Il s'est ennuyé devant Arsenal-Chelsea, il en a parlé, on vous donnera sa déclaration. Ça t'a énervé, Manu, hein?
Bien sûr que ça m'énerve.
T'as envie d'en parler, hein?
Bah, j'ai envie de parler, c'est le thème, non?
Ben, on va en parler à 19h.
Tu vas t'occuper de Ruud Gullit, quoi. Ballon d'or 87, ça te fait pas peur?
Non, c'est pas ça. C'est, voilà, on a le droit de pas être d'accord. Il a le droit de dire ce qu'il pense, mais on a le droit de pas être d'accord.
Il est déjà rabat-joie.
Non, mais c'est un peu con pour Ruud Gullit quand même, parce que je crois qu'il était consultant aussi, donc du foot.
C'est vrai.
Bah oui. Ouais. Donc c'est quand ça l'arrange en fait.
Bah, c'est pas ça. C'est qu'il dit je veux plus regarder, ça m'ennuie le football, et puis
il a le droit de le penser quand même.
48 heures, il regarde encore un match.
Ouais,
ok, d'accord.
Bah, il a laissé une dernière chance.
J'ai décidé, j'arrête d'en regarder. Depuis 48 heures, il ne regarde plus. Mais attention que dans 72 heures, il n'y a pas un match.
Ouais, on n'est pas à l'abri.
Et puis ça vous avait manqué, mais à 18h30, on va parler de Kylian Mbappé. On va faire son procès ce soir à Kylian Mbappé. Procès de Mbappé et de son manque de communication autour de sa blessure. Jérôme tenait à en parler.
Bah, Jérôme, ça fait longtemps que tu as pas mis un paquet.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Voilà. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Mbappé.
Tu rigoles, ça veut dire que c'est gratuit. Tu dis que c'est gratuit, les
taquets. Ah bah, depuis qu'il est parti, il en est pris tellement des supercuits.
Il fait l'actualité.
La semaine dernière, encore dans Roten sans flamme, on l'a protégé.
Exactement.
Ah d'accord.
Donc, rendez-vous 18h30.
Ouais, on parle une semaine après. Sacré éolienne.
Et on démarre forcément par tourner, Marseille. À 18h03 sur RMC.
On n'est pas à l'abri.
Ça va être le running gag toute l'émission. Allez, tout de suite, notre Dream Team marseillaise la veut, cette Coupe de France.
T'as besoin de toi.
Il y a une marée marseillaise pour aller marquer ce 9e but. C'est Pavard qui arrive dans la surface. Le centre de Pavard et le but de Greenwood. C'est fini 9-0 pour l'OM.
Oui, victoire. Le but marseillais.
2-0.
J'avoue que d'y croyez, mais je ne croyais pas que ça allait à Tourbeau comme ça.
Le trophée, le club ne l'a pas gagné depuis très longtemps. Et donc ça doit être un objectif majeur pour nous.
Est-ce qu'on va demander à Greenwood de se comporter comme un Messi à la bonne bière, à bonne mère.
Et le 3-0.
C'est plus des gamins maintenant, hein.
Ce sont des messieurs. Le ouf de soulagement pour les Marseillais. Vu la période compliquée, l'OM sera en quart de finale de la Coupe de France.
Un club comme l'Olympique de Marseille, tu peux pas permettre de dire non, je joue pas le titre, on va le laisser.
De renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx. Hein.
Ça suffit.
Ouais, c'est vrai.
Ah, parce que
les meilleures blagues, c'est les plus courtes. Hein.
Ça dure
combien de temps, vos conneries là?
Ah, bah ça va durer toute la saison. Le grand, la légende de l'Olympique de Marseille nous rejoint. rejoint dans ce studio Souleymane Diawara qui est là. Salut Soulé.
Salut les amis.
Salut Soulé.
Excusez-moi encore pour le retard. Pour les bouchons parisiens.
Écoute, pas de souci. T'arrives au bon moment pour parler de l'Olympique de Marseille.
C'est à Lyon qu'il y a des bouchons, mais bon.
Ah ouais, c'est vrai. Les bouchons lyonnais. Tout à fait. Est-ce que c'est la bonne cette fois? Est-ce que l'OM va aller soulever cette Coupe de France pour la première fois depuis 1989? Marseille n'a plus remporté ce trophée depuis longtemps. Le dernier trophée à Marseille, c'était en 2012, la Coupe de la Ligue. Soulé y était. D'ailleurs, ça commence à dater.
Ouais, la poussière là, sur le.
Sachez d'ailleurs que depuis l'arrivée de Franck McCourt à Marseille en 2016, Marseille n'a jamais passé le stade des quarts de finale de Coupe de France.
Ah, ça veut dire quoi ça?
Bah, si y a qualif ce soir pour le dernier carré,
depuis qu'il y a McCourt, en fait, il se passe rien.
Et on va en parler avec Florent Germain.
Si y a qualif, on leur donnera une médaille alors.
Salut Florent.
Salut les amis. Salut Flo.
Salut, bienvenue. Flo, est-ce qu'il y a autant de pression à Marseille que pour le match de dimanche de championnat face à l'Olympique Lyonnais alors?
Autant, voire plus. Enfin oui, la pression elle est très forte. Alors ce qui change, c'est que l'ambiance elle va peut-être être plus positive, parce que j'ai senti avant Lyon que les supporters en avaient gros sur la patate. Ils se sont libérés après le scénario et la victoire 3-2, mais bon, c'était, il y avait une ambiance bizarre avant et pendant Marseille-Lyon. Là, l'ambiance, elle est un peu plus positive, liée à l'enthousiasme du match contre Lyon et ce succès, ce scénario assez fou. Bon, il y a l'objectif des champions, on le met de côté, mais il y a vraiment ce besoin vital pour l'OM de renouer avec un trophée, parce que tu as rappelé les chiffres, Benoît. Bon, c'est presque indigne d'un club comme l'OM, hein, 14 ans sans titre, pas de Coupe de France depuis 89, alors que la Coupe de France historiquement réussissait à l'OM. Je sais que tu le vis très mal, Jérôme, mais que ça te travaille énormément. Abibay, il en a parlé, Paris n'est plus là, donc le coach de l'OM forcément reconnaît que Marseille doit aller au bout, tout faire pour aller au bout.
Je vois pas le parcours de l'Olympique de Marseille en fonction de ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain dans une compétition. Ce qui est sûr, c'est que le trophée, le club ne l'a pas gagné depuis très longtemps, et donc ça doit être un objectif majeur pour nous, comme l'est le championnat. On mettra toute notre énergie pour ça. Et surtout, je pense qu'il est important qu'on fixe des objectifs très élevés pour créer cette émulation, parce que on est aujourd'hui, à travers cette émulation-là, dans le challenge, et c'est ce qui génère aussi cette motivation. Mais cette motivation, il y a d'autres équipes qui l'ont, qui sont encore engagées dans cette compétition. À nous d'être très motivés pour cet objectif-là. On sait que c'est très important pour le club.
Voilà, très important. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure à 17h avec les copains du Moscato Show, et je suis très sérieux, que l'un des traumatismes des 5 dernières saisons, c'est très clairement le OM Annecy, quart de finale de Coupe de France. Marseille avait éliminé le PSG le tour précédent, donc se voyait avec une autoroute, et au final il y a eu cette désillusion. Voilà, gagner pour la jeune génération et les minots qui aiment l'OM, c'est aussi un mot d'ordre ici à Marseille.
Flo, reste avec nous, c'est la une de Rotten sans flamme. Gagner la Coupe de France, est-ce impératif pour sauver la saison de l'OM? 32-16 pour participer avec nous, Jérôme.
Impératif, non. Sauver la saison de l'OM, non plus, parce que la saison aujourd'hui, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. T'es pas dans tes objectifs. T'as déjà des objectifs qui ont disparu. C'est-à-dire que, franchement, championnat, ça va être dur de faire mieux que l'année dernière. On va pas se voiler la face, même si c'est pas fini. Il reste 10 matchs. Ils ont quand même 10 points de retard. Ça 10 points de retard sur Lens. Donc ça va être compliqué. Deuxièmement, la Ligue des Champions est un objectif de passer en 16e de finale. C'est échec total.
Sera pas
voilà. Donc à partir de là, t'as un entraîneur qui a dégagé, qui a sauté. T'as le trio. Qui était censé être le point de stabilité pour l'Olympique de Marseille, ce nouveau rebond de l'OM l'année dernière, il y a donc 18 mois, bah tout a explosé en plein vol. Donc pour moi, c'est loin d'être une réussite. Et pourquoi je te dis ça, c'est que quelle que soit la fin de saison, pour moi, la saison est un échec dans tous les cas. Et en plus de ça, c'est qu'il y aura une intersaison l'année prochaine avec un nouveau président, avec un entraîneur. Peut-être que ça sera pas Abibay, parce qu'il a signé 18 mois, donc je pense qu'il a des objectifs à atteindre.
S'il gagne la Coupe de France, qu'il se qualifie pour la Ligue des Champions.
Avec Dessy, peut-être qu'ils finiront deuxième du championnat. T'as raison, et qu'ils gagneront la Coupe de France. Mais c'est pour ça. Donc pour l'instant, aujourd'hui, le 4 mars, on va pas se projeter au 30 mai, d'accord. Au 4 mars, j'ai des doutes sur le fait que la saison se termine très bien pour l'OM. J'ai des doutes sur le fait qu'Abibay atteigne des objectifs comme il a dit.
crédit très élevé, ce qu'il veut dire au club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finir en Ligue des Champions et, comme tu l'as dit, gagner la Coupe de France. J'ai des doutes, excuse-moi, de et c'est pas être anti-marseillais ou pro-marseillais. J'ai des doutes là-dessus que cette équipe, elle soit capable de faire ça. Mmh. Voilà. Pour l'instant, les 8-9 premiers mois de la saison me confortent là-dedans. Et il y en a, il y a personne qui peut me contredire sur ce qui se passe.
Il y a deux points du podium et trois matchs de Coupe de France.
Sauf que toi, Jérôme, tu dis, si je te suis, oui, que la saison est, quoi qu'il arrive, un échec.
C'est un échec. Ouais, c'est un échec.
Oui, mais là, ça veut dire que s'il y a podium et victoire en Coupe de France, c'est un échec
pour
quand
moi,
même.
Pour moi, c'est un échec parce que t'as essayé de construire quelque chose avec deux herbes.
Non, Jérôme, je veux pas te dire ça.
Non, mais regarde.
Je sais pas ce que tu vas dire, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais on a tous été joueurs de foot. Un trophée, ça reste un trophée.
Mais tu as raison. Mais c'est pas ce que je dis.
On peut pas dire que la saison va être avec niquée parce que ils ont pas gagné le. Même s'ils ramènent un trophée, la saison est foutue. Non.
Donc juste Soulé, juste ils gagnent la Coupe de France.
S'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, la saison elle est, mais on est presque sauvée. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais tu dis que la saison elle est pas, elle est niquée la saison parce que ils ont pas ramené.
La saison est un échec, Soulé. Quand tu annonces il y a 18 mois que tu veux construire avec un trio,
depuis que Marcourt il est là, je suis d'accord. Ils ont annoncé plein de choses qu'ils allaient être champions.
Et bah donc c'est un échec. Si tu changes d'entraîneur en courte saison, tu changes de président. T'as Mehdi Benatia qui va partir.
Jérôme, si je peux me permettre, tu confonds une saison chaotique à une saison qui sera un échec. Et pour moi, s'il y a victoire en Coupe de France et podium, la saison aura été chaotique, voire réussie, voire même le mot est fort, historique, s'il y a une victoire en Coupe de France, parce que Marseille est en train de souffrir par rapport au fait qu'il n'y a pas de trophée.
Mais le mot n'est pas fort, Flo, et c'est là que je voulais en arriver, parce que là, vous m'avez sauté à la gorge et vous avez raison. Et Soulé, t'as raison, t'es pas content, t'as raison. Et Flo aussi. Mais par contre, qu'elle soit historique, si tu gagnes la Coupe de France, je te parle pas du podium de Ligue 1, parce que j'imagine quand même qu'ils sont encore dans les clous, mais pour moi, Lyon reste meilleur que l'OM. C'est tout. C'est mon avis. Et que ça va être difficile.
C'est ton avis.
Mais c'est mon avis. Et peut-être que ça va pas me donner raison. Pour l'instant, ça me donne raison. Mais aujourd'hui, si tu gagnes la Coupe de France, vu que c'est pas arrivé depuis 89, là, c'est historique. Ça, on est d'accord. Quand tu gagnes, et là,
si tu gagnes la Coupe de France et t'es qualifié en Ligue des Champions.
C'est ça le problème.
T'es qualifié en Ligue des Champions,
Manu, parce que. Si t'as seulement une des deux conditions,
avec toutes les stars que t'as pris et tous les rebondissements.
Ouais, mais par rapport à la saison, si tu ramènes un trophée et t'es qualifié en Ligue des Champions.
Voilà. Mais c'est la condition sous les ponts.
Voilà.
Si tu finis en Ligue des Champions à 17 points ou 18 points du Paris Saint-Germain, c'est une saison réussie.
Peu importe, l'écart,
t'en fiches, Jérôme. C'est très bien, c'est réussi.
Non, mais l'écart, ça n'a aucun intérêt.
Alors, moi, les deux sont liés. Les deux sont liés pour avoir une saison relativement réussie. C'est une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. C'est vu qu'il n'y a plus le PSG en Coupe de France, c'est d'aller chercher cette Coupe de France, un titre.
Ce qui ne sera pas facile.
Non, ça ne sera pas facile. Quand tu regardes le calendrier aussi de l'OM en championnat, je veux dire, il y a plus de matchs compliqués. Il y a plus de matchs compliqués pour les Lyonnais jusqu'à la fin de saison que pour Marseille, quoi. Donc il y a des matchs largement à la portée de
Le match à Brest, il était compliqué pour Marseille ou pas?
Considérant une
équipe qui a perdu un match sur deux, c'est une réussite si l'OM.
Jérôme, là tu fais abstraction du contexte. Parce que tu sais très très bien ce qui s'est passé après l'élimination en Champions League, ce qui s'est passé avec Longoria et compagnie, le Paris Saint-Germain, la Chip, tout ça. Tu sais très bien que dans le vestiaire c'était la sinistrose. Tu sais très bien qu'il y avait le stade, enfin le club et les joueurs, le vestiaire était sur le toit du volcan.
D'accord. Mais pour te dire, quand je parle d'échec de cette saison-là, quelle que soit la fin de saison, comme vous me dites, parce que vous avez sorti la boule de cristal, et en effet ils vont finir en Ligue des Champions et gagner la Coupe de France.
En début d'année,
quand le club investit autant d'argent qu'ils ont investi, parce qu'ils ont beaucoup investi avec le recrutement.
Là, Jérôme.
D'accord. Eh ben, écoute, l'objectif, c'était quoi?
De se qualifier encore en Champions League.
Pas trop d'écart. La saison n'est pas encore finie. Pourquoi c'est mort? Il reste 10 matchs. Je sais pas ce qui peut se passer. Ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Et tu sais qu'en ce moment, ils sont en difficulté.
Ils sont à 14 points. Mais tu crois qu'ils vont finir à 3 points?
C'est pas l'écart qui compte, Jérôme.
On s'en fout de l'écart.
L'important
exactement.
Pour le club, c'est de se qualifier pour assurer la rentrée financière de la Ligue des Champions.
Non, mais alors, c'était quoi l'objet? Rappelez-moi l'objectif du club.
Jérôme, tu inventes quelque chose, Jérôme.
J'invente quoi?
Mais tu inventes. L'objectif de base, c'était de se requalifier pour la Ligue des Champions.
Exactement.
Il n'y a même pas eu de déclat où on a osé dire du côté de l'OM, alors que. On l'a critiqué, Jérôme, dans cette émission, que l'OM n'affichait pas assez d'ambition en Ligue des Champions.
Là, vous êtes malhonnête.
Non, c'est pas vrai. Tu refais l'histoire.
Non, moi, je suis pas malhonnête. Quand tu recrutes des joueurs comme ça a été recruté au dernier moment du mercato.
Ça n'a pas été affiché comme un objectif.
Mais qu'est-ce que les mots sont sortis de Mehdi Benatia, de Pablo Longoria et de De Zerbi?
D'aller titiller Paris, mais pas une grande équipe.
On a une grande équipe, on a des grands joueurs.
Oui.
Aujourd'hui, avec cet effectif-là, on va venir titiller le Paris Saint-Germain, on va essayer de se rapprocher du PSG. Et qu'est-ce qui s'est passé après la victoire au mois de septembre, au mois d'octobre, de l'OM contre le PSG? Tout le monde a dit, ça y est. Ils ont récupéré un gros retard sur le champion d'Europe. C'est bien, tout le monde disait ça.
C'était pas les objectifs affichés.
L'objectif affiché, c'était de te qualifier directement en Ligue des Champions. Exactement.
Mais je savais pas que l'objectif du début de saison, c'était juste de gagner la Coupe de France.
C'était de se qualifier pour la Ligue des Champions une deuxième fois consécutivement. D'accord. Tu le sais très bien.
Ils n'ont jamais prétendu venir prendre le titre de champion de France au PSG.
Non, m'intéresse. Attention, je te parle pas de ça. Je te dis juste que si le PSG.
On avait titiller, on avait venir les embêter jusqu'à la fin de saison.
Mais on avait dit, ce que fait Lens, on avait dit que s'il y avait une équipe qui devait se rapprocher du PSG, si le PSG dégageait pas autant de force que l'année dernière, ce qui est le cas, on est d'accord. Mmh. Le PSG, ils ont perdu beaucoup plus de points et ils galèrent sur des petits matchs. On est d'accord ça. Voilà. Et même l'OM et les grosses équipes de Ligue 1, si on peut appeler ça des grosses équipes de Ligue 1, ont accroché le PSG, d'accord, sur les confrontations directes. Une fois que t'as dit ça, tu t'aperçois que le PSG aujourd'hui est à la lutte avec le titre avec Lens et que l'OM est à 10 points de Lens et est à 14 points du PSG. Mmh. Donc c'est normal. Il y a un entraîneur qui s'est fait dégager. T'as un président qui s'est fait dégager parce qu'ils sont pas dans les clous de leur objectif. Et tout ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est parti en vrille complètement. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, on est d'accord. Oui,
voilà.
Oui.
Donc après, la fin de saison arrive avec un nouvel entraîneur. Il n'y a pas de souci. Habib Bey arrive. Alors, dans l'urgence, il y a des choses intéressantes et on l'a dit. Mmh. Et même si les gens me disent que je suis malhonnête et que je suis anti-marseillais, pas du tout. Je l'ai dit ici, contre Lyon, il y a des choses qui ont changé en l'espace d'une semaine. Bravo à lui. Mmh. Bravo. Voilà. Maintenant, je pense en effet qu'ils sont pas encore à la hauteur des équipes comme Lyon, des équipes comme Strasbourg quand ils sont au taquet. Je pense que ces équipes-là sont en avance sur l'OM. Et pour moi, ça va être...
Sur quel point ils sont en avance sur l'OM?
Pour moi, ils sont meilleurs que l'OM.
Si
tu te bases sur quoi en disant ça?
Sur les matchs.
Là, c'est son côté parisien qui parle. Tu peux pas me dire qu'ils sont en avance sur l'OM, Strasbourg, Lyon.
Je leur souhaite pas parce que ça va être compliqué. Mais je souhaite que l'OM se qualifie ce soir en demi-finale et que le tirage...
Ça
soit Strasbourg-Marseille ou Lyon-Lens contre Marseille à l'extérieur. On verra si vous aurez le même discours et si on verra la.
J'aurai toujours le même discours.
Non, mais d'accord. Mais moi, je pense que si l'OM, en termes de tirage, va jouer à l'extérieur à Strasbourg ou à Lyon ou Lens, celui qui va gagner, je pense qu'ils seront outsiders. Ils seront pas favoris.
Tiens, donnez la parole à Laurent, supporter marseillais, qui nous attend au 32-16, Jérôme. Laurent qui est là. Salut Laurent.
Ouais.
Salut Lolo.
Ouais, salut messieurs. Salut.
Ça va Laurent?
Sois le bienvenu.
Ça va, ouais. Bon. Ouais, ça va, merci.
Alors vas-y, qu'est-ce que tu penses toi de la fin de saison de l'OM? C'est une réussite s'ils gagnent la Coupe de France?
Alors, moi je pense qu'ils ont l'obligation de gagner la Coupe pour gommer un peu toutes les scories qu'il y a eu sur la saison et tout le chamboule-tout qu'il y a eu. Il faut gagner un trophée et finir effectivement dans les trois premiers pour se requalifier pour la Ligue des Champions. Si demain on ne gagne pas la Coupe de France, ça va être compliqué. On va repartir dans le marasme. Et avec tout ce qui s'est passé sur la saison, il faut absolument qu'il y ait un trophée. Et après, c'est des matchs à élimination directe. Sur un match, tout est possible. Hein. Et Jérôme, même s'il faut aller à Lyon gagner, on ira à Lyon gagner.
Laurent, je te dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand on voit le tableau, et on est là pour analyser les matchs quand même. Après, il y en a qui se sentent plus proches de Marseille que moi, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais en étant objectif, aujourd'hui, quand Strasbourg à la Méno joue, ils sont très bons.
Et Marseille, ils ont battu bon. Strasbourg, oui. À Strasbourg.
Mais Marseille, je crois qu'ils n'ont pas fait, bah, ils n'ont pas pris, ils ont gagné,
ils ont
raclé, ouais.
Quand
ils sont allés à Strasbourg.
Mais ils ont gagné à Strasbourg.
Ils ont gagné à Strasbourg.
À la dernière seconde, ils ont gagné raclé.
Ah bah voilà, mais attends. Non, mais
encore hold up, encore hold up. Je dis, c'est son côté parisien qui parle.
On a perdu combien de matchs?
Là, c'était un hold up là-bas.
Eh oui, mais combien de fois à Toulouse, ils ont mis un but à la dernière seconde? Il y a eu plein de matchs comme ça qui ont mal tourné pour nous. Donc, la chance, elle peut tourner à un moment donné. La pièce, elle peut tourner du bon côté.
Non mais attends Laurent, je te pose la question. Est-ce que tu penses, retire-toi du côté supporter de l'OM. Est-ce que tu penses que la saison de Lyon et de Strasbourg en France, elle est meilleure, du moins l'équipe est meilleure que l'OM?
Mais aujourd'hui Lyon, ils sont à sur-régime.
Ah,
Lyon, c'est la surprise de la saison.
Lyon. Laurent, on va pas aller très loin. Tu regardes le classement. Pour l'instant, Marseille sont troisième. Donc, arrêtez de me parler
quatrième.
Ouais, mais ça va arriver.
Aujourd'hui,
là.
Lyon,
mais pour te dire que.
Toi, t'as rêvé.
Laurent, pour toi, si l'OM gagne pas la Coupe de France et sont qualifiés en Ligue des Champions, c'est une saison ratée.
C'est pas une saison ratée, mais c'est pas une saison réussie non plus.
Merci.
Chaque année, les saisons ne sont pas réussies alors à l'OM, puisque ça fait plus de 12 ans qu'on n'a rien gagné.
Arrête, dis pas ça, ça me fait mal au cœur.
Je dis pas que c'est. Il y a eu des possibilités d'aller chercher le titre, il y a d'autres équipes qui les ont fait. Nous, on n'a pas été capable de le faire.
Ouais.
Cette année, il y avait la possibilité de le faire. Malheureusement, on a eu un chaos avec Deserbi, qui a fait 30 compositions. Qui a fait avec Benassia et Longoria, qui ont fait venir X joueurs, viré Rabiot pour gagner de l'argent, je le dis. Rabiot était sorti sur un prétexte pour aller chercher de l'argent, surtout que Rowe, il était parti. Rabiot, il suffisait de le mettre peut-être à la carte pendant deux matchs, il restait, on aurait une autre équipe et une autre mentalité.
Mais on est d'accord, et c'est pour ça que tu ne peux pas dire que ça sera une réussite si jamais il se qualifie en Ligue des Champions et qu'il gagne la Coupe de France.
La question, elle est peut-être plus intéressante dans l'autre sens, parce que Soulet, toi, t'as demandé est-ce que tu sauves les meubles, en gros, si jamais tu te qualifies pour la Ligue des Champions et si tu gagnes pas la Coupe de France, et l'inverse. Est-ce que vous avez parlé du côté historique de la Coupe de France? Est-ce que la saison sera sauvée si tu fais pas podium de Ligue 1, mais que tu gagnes la Coupe de France, que tu attends depuis 89?
Elle sera, la saison, pour moi, elle sera historique, oui, mais je suis d'accord avec Flo, le mot est fort.
Elle sera ratée.
Mais historique parce que t'as gagné un trophée.
T'auras loupé
les
deux objectifs.
On est passé dans les clubs. Comment tu marques l'histoire d'un club? En gagnant des trophées.
Si
tu gagnes pas de trophée, on est tous de passage, les joueurs, dans tous les cas. Mais quand tu gagnes un trophée, t'es sur le mur. T'es sur le mur. Et là, tu te dis, cette saison-là, peut-être qu'on a galéré. Peut-être que, en effet, on a pris des tartes. Peut-être que l'entraîneur a dégagé. Le directeur sportif, pareil, et le président. Mais à la fin.
T'inscris
ton nom au palmarès. Et puis, depuis 89, là, c'est pour aller dans le sens de Marseille. Déjà, c'est une anomalie. Depuis 89, ils n'arrivent pas à gagner la Coupe de France.
Il y a 15 clubs qui l'ont gagné.
C'est une anomalie. Quand tu vois avant 89,
ça sera un coup d'arrêt aussi dans la politique de Marseille. Depuis que Longoria est parti, je pense que ça va changer. Il n'y aura pas autant de départs et d'arrivées à chaque mercato.
Bah on le souhaite.
Donc et c'est pour ça. Je me dis que s'il n'y a pas la manne financière de la Champions League, tu fais comment?
Ah bah t'es obligé d'avoir un peu plus de stabilité.
Mais t'es obligé certainement de vendre certains joueurs.
Ah bah c'est sûr.
Aussi,
on en revient donc globalement à l'échec. Alors pareil, le mot autant historique, il est peut-être trop beau et trop fort, et le mot échec aussi trop fort dans l'autre sens. Mais l'échec de l'OM sur cette année, c'est ça. C'est d'avoir construit un effectif en prenant des joueurs qui sont censés t'apporter plus d'expérience en Ligue des Champions et te faire progresser. Et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est vrai, t'as perdu Rabiot, tout le monde le dit, et on est les premiers à le dire. Et pourtant, je tenais pas ce discours-là au mois d'août. Il faut reconnaître, non, mais c'est vrai. Mais Rabiot, ça a été une perte terrible pour l'effectif marseillais, pour ce groupe.
Annonciateur.
Oui.
Merci à Laurent qui est venu au 32-16. Merci à Florent Germain qui sera sur le ce soir.
À guichet fermé, là, je viens d'avoir les infos, donc ce sera quasiment
plein. On a
guichet fermé. Je vois tous les supporters marseillais qui s'agitent sur le 06-12-424-424.
Le volcan va.
H qui me dit, je veux que soit plus souvent présent dans Rotten sans flamme, ça y est. Il y a une nouvelle figure marseillaise dans Rotten sans flamme.
C'est bien. Écoute, un peu de contradiction.
Et tu vois, ça te fait monter en régime comme ça quand il y a un Marseillais en face de toi.
Au contraire, c'est bien, c'est agréable d'avoir.
Mais parfois, quand il dit des bêtises, je suis obligé de réagir.
C'est vrai. Et j'en dis beaucoup.
Et dans un instant, vous allez encore être en désaccord parce qu'on va ouvrir le procès.
Mais là, j'ai raison quand même.
Et son manque de communication, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h28 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure avec Souleymane Diawara, avec Manu Petit et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h comme tous les soirs. À 18h45, Benoît.
Ah, bah, un ami de Souleymane Diawara.
Ah oui,
ancien coach à l'OM, Franck Passy, qui sera avec nous. On parlera de la gestion des émotions quand tu es entraîneur de l'OM, Soulé. Voilà. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Quand ça se passe bien et quand ça se passe mal, Franck Passy a une sacrée expérience, il pourra nous en parler.
C'est vrai.
Mais tout de suite, on attaque le procès autour de Kylian Mbappé.
RMC, Rotten sans flamme.
Plusieurs fois, il fait des passements de jambes, ces trucs techniques. Je ne vais pas passer au ralenti devant toute la terre, moi. Non. Donc, je l'ai averti. Je l'ai regardé, je lui ai dit une fois, je ne suis pas ton fils, moi. Je ne suis pas avec moi.
Le procès de Rotten sans flamme.
C'était sur qui, ça ? C'était qui ?
C'est la veille du match.
C'était Real, non ?
Ouais. C'est Ronaldo.
Finalement, je suis passé au ralenti.
Le ralenti est arrivé.
Tout ce que j'avais dit, c'est passé tout contraire. Ouais.
Incroyable.
Bah là, il m'envoie souvenir. Un message, Cristiano. Il me dit que passe le bonjour à tous les deux.
Ouais. Et remettez-vous le ralenti dans le studio. Et
d'ailleurs, ouais. Pour regarder le match, moi, je fais des lunettes 3D.
Alors, l'inquiétude grandit en Espagne autour de l'état de santé de Kylian Mbappé. Il souffre d'une entorse du genou gauche. Hein, information publiée par le club dans un communiqué. Mbappé qui a consulté un spécialiste français à Paris en début de semaine. Son club espère le retrouver dans 15 jours.
Lequel spécialiste ? C'est pas ça.
Sandré Cotteret. Ah. Voilà, le spécialiste du genou à Lyon qui est monté à Paris pour rencontrer Kylian Mbappé. On a des infos.
Donc ils se sont rencontrés à Paris alors qu'il est à Lyon.
Eh ben oui.
Il lui a envoyé une voiture, il est monté à Lyon et il est reparti.
Le Real espère retrouver Mbappé dans 15 jours pour le match retour des 8e de finale contre Manchester City. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de spéculations autour de cette blessure, notamment dans les médias espagnols. D'après la radio La Cadena Ser, le clan Mbappé n'est pas d'accord avec le calendrier fixé par le club et Mbappé, lui, compte prendre son temps pour bien récupéré. D'ailleurs, selon nos infos signées Edgar Groslo, Mbappé continue de travailler sur son genou gauche depuis Paris. Il est à Paris en ce moment, accompagné par des membres du staff. Il est attendu vendredi à Madrid.
Sur quel point ils sont pas d'accord, tu peux préciser ?
Sur la durée d'indisponibilité. Ouais. Voilà.
Le Real veut le faire reprendre plus tôt. Voilà. Et lui veut prendre son temps. Parce qu'il y a City qui arrive et qu'il a été déterminant sur les deux matchs.
Et puis t'as vu le Real sans Mbappé.
Ils ont déjà parlé. Ouais, ils ont parlé déjà du match retour où il pourrait être là. Tu vois, ils anticipent.
Alors, ouvrons parce justement le procès.
Sans Mbappé, le Real, est-ce qu'ils peuvent passer contre City ?
A priori, non. Bon,
alors, le déjà procès qu'avec Mbappé, ça va être dur. Mais...
Et de son manque de communication autour de sa blessure aujourd'hui, le procureur, c'est Jérôme Bretagne. Bonsoir.
Sérieusement. Bonsoir à tous.
Sérieusement. Deux avocats pour Kylian Mbappé.
Ah bah évidemment.
Manu Petit et Souleymane Diawara.
Avec plaisir. Et je suis curieux d'entendre un petit peu les arguments de l'accusation.
J'ai hâte.
Les deux, ils vont finir dans la poche. Dans la poche gauche, dans la poche droite.
Moi, je vais te mettre échec et mat parce que j'ai un argument, tu pourras pas contrer en fait.
J'ai l'impression de me revoir sur le terrain il y a quelques
arrêtez
années.
Arrêtez de pavoiser, on veut vous entendre dans le procès. C'est Gabriel qui rendra le verdict au 32. Salut Gabriel.
Salut, bonjour messieurs, et je vais être impartial.
Ah, merci Gabriel.
Mon jugement clair
Gab, et précis. Gab, t'es supporter de quel club ?
Non, on s'en fout.
Supporter de Strasbourg. Non, c'est
voilà.
Strasbourg a gagné hier, je suis euphorique aujourd'hui.
Franchement, Strasbourg, magnifique équipe. Bravo.
Allons-y, Jérôme. Qu'est-ce que tu reproches au capitaine de l'équipe de France, alors Jérôme.
Non, mais en fait, vous allez dire, je m'acharne sur Kylian Mbappé, mais pas du tout. En fait, Kylian Mbappé, si tu te refais, si tu te refais l'histoire,
le fait de le dire avant même de commencer.
Non, mais parce que je sais où tu vas aller et Souley aussi.
Mais je vous
connais par cœur. Mais c'est pas grave. Moi, allez, je dis les choses comme elles doivent être dites dans l'émission et dans tous les cas, je trouve que Kylian Mbappé était rafraîchissant. Quand il a commencé professionnel, on est d'accord avec ça. Mmh. Il parlait bien, il y allait,
il nous
racontait, oui, très bien, même trop bien, même par moment, et trop calculé peut-être. Mais à l'arrivée, les interviews et te disait exactement ce qui se passait lui dans sa vie professionnelle, comment il se sentait et tout ça. Et puis là, on arrive en effet à un âge où tu peux, avec tous les matchs qu'il y a, tu peux te blesser de temps en temps. Et c'est pas la première blessure importante qu'il a. Rappelle-toi tout ce qui s'est dit à l'Euro quand il s'est fait mal au nez. On en a fait une affaire d'État. Mmh. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, tout ça, nanana. Ça, je pense, plus perturbé Kylian Mbappé qu'autre chose, que les gens parlent à sa place. Mais lui, avec la grande communauté, du moins son grand staff de communication, lui conseillait tu ne dis rien, laisse parler les gens et tu verras sur le terrain. À l'arrivée, ça a été un flop.
déjà à l'Euro. Là, il arrive, je raconte même pas ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain et à son départ avec le Real Madrid, avec tout ce qui s'est dit. Lui n'a jamais rien dit, bien sûr. Tu vois, il laisse parler les avocats, il laisse parler les gens autour de lui, il laisse parler les journalistes qui ont plein d'infos à sa place et qui savent mieux que lui. Et en l'occurrence, là, je veux parler de sa blessure.
Mais tu voulais qu'il dise quoi,
non,
en fait, là?
Attends, Soulet, après tu parlais. Et peut-être que là, tu vas m'expliquer que c'est normal qu'il dise rien. Là, maintenant, on a cette fameuse blessure au genou. C'est un coup d'arrêt pour le Real Madrid parce qu'on voit les matchs et que quand sans Kylian Mbappé, alors déjà avec, ils sont en difficulté, mais alors sans, ils sont vraiment dans la merde. Je suis désolé du terme. Donc, le Real communique d'une façon où ils se disent, oh là là, la blessure au genou, on va pas dire réellement ce qu'il a, mais par contre, on va rassurer tout le monde et on va faire en fonction, des prochains jours pour qu'il soit sur le match retour contre Manchester City. Les infos des journalistes, comme tu l'as dit, Benoît, ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais les infos, c'est que le clan Mbappé et lui, bah, ils sont pas d'accord avec le diagnostic du Real et cette phase de reprise. Donc, ils veulent prendre le temps. Ok, il y a pas de problème, ça s'entend. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un problème qui se crée entre le clan Mbappé et Kylian Mbappé et son club et l'équipe de France maintenant qui est mêlée parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive,
moins de 100 jours,
qui arrive et surtout une prochaine sélection
fin mars
avec ce qu'il a fait en Azerbaïdjan. Je pense que ça serait bien qu'il y aille, d'accord. Donc une fois que tu sais ça et tu te dis mais il y a tellement de gens qui parlent et ça fait la une. Alors nous en France on est gentils, hein. Il y a une émission radio qui fait une émission de foot tous les jours. Il y a que nous. Alors tant mieux, hein. Tant mieux pour nous. Mais en Espagne il y en a pas qu'une. En Italie il n'y en a pas qu'une.
Consacré au Real, en plus.
Consacré au Real et tout ça. Eh ben au lieu de laisser les gens parler et encore que ça fasse du mal à ton image, parce que moi c'est plus là-dessus que je c'est plus un conseil. Mais parle. Qu'est-ce qui t'empêche de dire là t'es à Paris aujourd'hui, tu fais une interview. Là vous allez me dire le contraire peut-être sous les Manu, tu te poses et tu dis écoutez, moi le genou, j'ai telle blessure, une entorse qui est estimée par le docteur de Lyon là, qui est estimée à temps, donc je vais prendre le temps de reprendre, donc arrêtez avec les spéculations, je ne serai pas là ce jour-là, je ne serai pas là ce match-là. Par contre, avec la sélection, peut-être que j'irai, mais je ne jouerai pas.
Ouais, et
je
me remets. Mais Jérôme, c'est pas son rôle, tout ça. Laisse-le se concentrer déjà.
Alors maintenant, allez-y, expliquez-moi que c'est normal qu'il dise.
Parole à la défense, vas-y, je voulais.
Tu dis, non, qu'il prenne la parole. Mais quel joueur qui va prendre la parole pour parler de blessure?
Bah lui il le dit avant.
Okay. À quel moment tu l'as déjà entendu parler de
lui? Il y a 5-6 ans.
Il n'a jamais discuté.
Non, son nez, il n'a rien dit.
Non, mais bon, même toutes ses blessures auparavant, il n'a jamais parlé de ça. Mais ce n'est pas son rôle d'aller voir les médias, de dire oh, je vais me reposer pendant 15 X temps. Non. Laisse-le se concentrer à revenir au plus haut niveau que d'aller fatiguer, perdre de l'énergie à aller raconter sa vie par rapport à son retour. C'est pas ça.
Tu peux le faire sur les réseaux. Tu fais un post sur les réseaux et tu clarifies.
Ils savent le faire aujourd'hui, la nouvelle génération sur les réseaux.
Mais là, non, c'est pas pareil. Jérôme, t'as joué au foot. Tu sais très bien. T'as même pas le temps de penser à vouloir commenter tout ça.
Moi, Soulet, pour te dire.
Concentre-toi à revenir.
On a joué au foot et franchement, heureusement qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux et tout ça. Mais je vais te dire, si on avait joué avec à cette période-là.
L'avocat
Mais moi, on dit des choses, on dit des choses fausses sur moi, où on dit que je fais exprès de ceci, cela.
S'il perdait tout son énergie à répondre à tout le monde, toutes les choses fausses autour de Mbappé, vu qu'il perd pas son énergie à ça,
t'as raison, son image elle est bonne aujourd'hui ou elle est pas bonne en France?
Elle est bonne, son image.
C'est pas la question,
Jérôme, on s'en fout, c'est pas la question.
Mais je suis d'accord avec toi, Soulet. J'ai jamais vu un joueur aller devant la presse, même faire un communiqué personnel. Ça, c'est le rôle du staff médical, c'est le rôle du club.
Mais ils sont pas d'accord.
Ils sont peut-être pas d'accord. On s'en fout. Mais c'est pas le rôle du joueur de même.
Exactement.
Si. Et c'est pas à lui d'alimenter les spéculations qu'il y a sur les réseaux sociaux ou sur la presse. C'est pas la presse, elle s'enflamme pour un tout, pour un rien. Au contraire, elle se nourrit de tout ça en permanence. C'est pas à lui de leur donner des arguments pour qu'ils continuent à s'enflammer davantage. Et je vais te dire autre chose. c'est quand même marrant que tu tombes sur Kylian Mbappé.
Ah, ça y est, maintenant, ça
alors, mais, de alors, mais ben, c'est pas ça. C'est, mais qu'en est-il de Ruiz au PSG? Qu'en est-il de Dembélé? Ben, ça, ils communiquent, les joueurs?
Ben, ça tombe bien. Ben, ah, écoute, ça tombe bien. Je te donnerai des infos sur Ruiz tout à l'heure.
Ah, toi, tu me donnes des infos. Mais Ruiz, il donne des infos aux journalistes?
Bah, non, parce que les joueurs,
c'est pas leur rôle. D'ailleurs, Ruiz, il le fait pas, ni Dembélé. Et tant mieux pour eux.
Lui, il peut pas
parce que c'est pas leur rôle.
Il peut pas le faire parce que c'est contre lui.
Puisque tu me parles d'un statut, Benoît, moi, j'ai joué avec des très grands joueurs qui étaient dans la même catégorie qu'Mbappé. Ils ont eu aussi des blessures et jamais ils sont venus devant la
presse. C'était pas la même époque, Manu.
C'est pas la même époque. Zidane,
il est jamais venu.
Mais c'est pas la même génération.
Donc aujourd'hui, il faut dans le passé.
On va rester dans cette génération. Cristiano Ronaldo, il est blessé. Est-ce que tu vas le voir demain communiquer?
Cristiano?
Oui. Sur ses blessures.
Oh bah bien sûr.
Bon,
c'est
non.
pas impossible. Hein. Mais regarde, là il est parti à Madrid parce qu'il est blessé.
Non, ça t'as vu ça, c'est les
Lamine Yamal. Lamine Yamal quand il était blessé,
lui Lamine Yamal lui-même il a pas parlé.
Lamine Yamal quand il était blessé,
c'est pas de conneries.
Jérôme, Lamine Yamal quand il a été blessé X semaines du côté du Barça, il a communiqué, il a parlé sa blessure.
Mais je te parle pas de Lamine Yamal, on est en France, Kylian Mbappé.
Ah voilà, donc là c'est la France.
Kylian Mbappé,
on n'est pas le journal méridional, on est à Paris.
D'accord. Alors moi juste la question, je finis là-dessus, je vous pose la question et vous pensez que l'image de Kylian Mbappé en France, elle est bonne ou elle
ça
est pas bonne?
Ça n'a rien à voir avec l'image. Ça n'a rien à voir avec
sa gestion de la
blessure. Tout le monde le kiffe, Mbappé. Ah tout le monde le kiffe.
Tout le monde le kiffe.
Tu peux me dire ce que tu veux, tout le monde le kiffe.
Allez, Gabriel va rendre son verdict.
Je suis pas aussi sûr que toi.
Gabriel, qui remporte ce procès? C'était animé. Hein.
Alors, c'est parti un peu dans tous les sens. Moi, je suis plutôt d'avis de Jérôme. Le fait de, il y a rien qui va dans la communication de Mbappé, dans la communication globale de Mbappé et du Real Madrid. Et je suis assez d'accord, Mbappé communique pas trop sur sa blessure, il communique plutôt sur mode le guerrier qui se prépare et ainsi de suite. Il a publié d'ailleurs hier un post Instagram avec ses deux kinés. Donc voilà, il est dans ce mood-là, il l'a toujours été, même quand il était à Paris. On va pas lui reprocher ça. Mais en fait, c'est la communication du Real qui ne va pas du tout dans cette affaire.
Ça, c'est autre chose, t'as raison.
Pour moi, ils sont en train de, ils l'ont mis au placard sur les quelques matchs là qui comptent pour du beurre. Et vous allez voir, ils vont le ressortir comme une fleur pour City. Quitte après à recommuniquer en disant ah il s'est blessé maintenant vraiment il faut pas qu'il aille en équipe de France. Je rappelle que le Real ne veut pas qu'il aille en rassemblement de l'équipe de France.
Mais ils le font tout le temps en plus le Real Madrid.
Ils le font tout le temps, c'est la troisième fois qu'ils le font exactement. Et surtout que là en plus c'est à l'autre bout du monde, ils vont jouer le Brésil et la Colombie. Le Real a surtout pas envie qu'il se tape les 20 heures d'avion aller-retour pour aller jusque là-bas. Et donc c'est cette communication du Real qui va pas du tout. Et là le fait de dire je monte à Paris pour voir un spécialiste de Lyon, il n'y avait pas de vol Madrid-Lyon, c'est quoi cette histoire? Et un autre truc, c'est que pendant le match de Retafé, il a quand même été surpris dans des bars.
Oui, alors ça, ce sont les médias espagnols qui disent ça, qu'il était en train de boire un verre pendant le match. Mais ça, c'est encore un.
Non, mais là, si on revient sur le.
Merci, Gabriel.
Il faut lui poser la question à Gabriel.
Excuse-moi, mais le verdict est rendu.
Merci, Gabriel.
Est-ce
que Kylian Mbappé doit communiquer?
Non, mais
c'est pas son rôle.
C'est le rôle du club et du staff médical. C'est tout. Il y a des gens qui sont
saoulés. Ça fait quoi de perdre un procès?
Messieurs Petit Diawara, vous allez accepter les décisions de justice.
Vous dites n'importe quoi.
C'est pas aux joueurs de communiquer.
Allez, dans un instant.
Moi, je remercie Gabriel.
Allô, Jérôme. Franck Passy, l'ex-coach de l'OM, sera en direct avec vous. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h47 sur RMC, c'est chaud dans Roten sans flamme. Oh là là, Souleymane Diawara, Manu Petit, ils ont perdu un procès, ils s'en remettent pas. Hein. Pendant la pub, je vous raconte pas ce qu'ils essayaient de mettre.
Tu sais,
mais
il y a énormément de procès dans l'histoire de la justice qui ont été des scandales. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Enfin, ils ont compris. On est avec Benoît Boutron qui a tout entendu. Et bravo, Benoît, d'avoir.
Rejoindra justement les nombreux dossiers qui ont été maltraités.
On va recevoir Franck Passy, un ancien coach de Soulé et ancien coéquipier de Manu, non? Manu, t'as pas joué avec Franck?
Pas sûr.
Non.
J'ai joué avec Gérald.
Exact. Bon, on va lui demander s'il se souvient de toi.
Et à partir de 19h, grand débat. Roten se chauffe. Le foot est-il devenu horrible, comme le dit Rude Gullit, 32-16 pour participer avec
Rude.
Allez, tout de suite, allô, Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
Des fois, les supporters pensent que c'est
eux le club avant les gens qui travaillent dedans. Donc c'est pas simple d'être dirigeant l'OM, c'est pas simple d'être acteur dans l'organigramme de l'OM.
Allô Jérôme.
Il est le dernier coach à avoir emmené l'OM en finale de Coupe de France. Franck Passy est en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Salut Franck.
Bonsoir Franck.
Salut mon Franck.
Bon, il y a Soulet hein, qui est autour du plateau, que tu as bien connu. Hein.
Oui, je l'ai connu. Mais l'année de Libop, et puis après aussi, il s'était blessé, malheureusement pour nous, mais bon, après, il est bien revenu. C'était très bien.
Et bon. Oui, c'était l'après Didier Deschamps, après titre, Coupe de la Ligue et le championnat en 2010, la Coupe de la Ligue en 2012, et Libop est arrivé avec Franck Pasquier, c'est facile dans ses bagages.
Franck, on profite de ta présence pour parler un peu de la gestion des émotions à l'Olympique de Marseille. On a beaucoup parlé là depuis le début de saison, et encore sur le dernier match, on a vu des gens à Marseille très euphoriques de cette victoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
C'est l'essence du foot pour moi. Cette passion qu'il y a dans les tribunes, cette passion qu'il y a dans cette ville, crée énormément d'émotions, bien sûr. Alors, lorsque ça gagne, c'est toujours pareil. Hein. Tout le monde est content et pour les joueurs, c'est une euphorie importante. Par contre, quand ça perd et quand ils sont mécontents, c'est l'effet inverse. Je dévoile rien en disant que ça met quand même beaucoup plus de pression sur les matchs et sur les joueurs et sur les entraîneurs. Mais en même temps, bon, y en a qui ont la pression positive et c'est ceux qui arrivent à jouer à Marseille et à fonctionner dans ce club. Et ceux qui ne l'ont pas, ils s'en vont rapidement.
Franck, vous avez connu une situation un peu similaire, je le disais, en 2016. Vous êtes arrivé en entraîneur intérimaire. Vous atteignez la finale de la Coupe de France. C'était cet objectif Coupe de France pour effacer une saison de Ligue 1 qui était très compliquée. L'OM avait terminé 13e de Ligue 1. Et il y avait déjà à l'époque ces discours de « il faut absolument, il y a une obligation de gagner la Coupe comme ça pour sauver la saison ». Ça aussi, c'était une pression supplémentaire sur les tours précédents et sur la finale perdue contre le PSG d'ailleurs.
Ah ouais, il y avait une obligation. La seule chose, c'est qu'on avait Paris en face.
Eh oui.
Le grand Paris, je veux dire. Là, par
le
contre,
Paris de Laurent Blanc, ouais. Et Zlatan Ibrahimovic.
Exactement, qui a gagné tout et qui a gagné quasi tous les titres qu'ils ont disputés. Donc, il est vrai qu'on y a été avec beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits, mais bon. On s'est rendu compte qu'en face, on n'était pas du niveau. En plus, deux ou trois semaines avant, il me semble que Isla et Las Diarra, qui était notre moteur, qui était le vrai moteur de l'équipe, s'étaient blessés. Donc, ils avaient juste une semaine d'entraînement dans les jambes. Voilà, on a résisté. À la mi-temps, on sera même partout. Mais bon, après, en deuxième mi-temps, on a craqué. Là, ce soir, il me semble que voilà, si Marseille veut essayer de gagner cette année, c'est l'année, quoi. Parce que
il vaudrait mieux se qualifier ce soir, oui.
Ouais, non, mais pour moi, c'est l'effectif de Marseille est bon. Le seul effectif qui était bien meilleur qu'eux, c'était peut-être Paris. Donc voilà, ils ont les atouts dans leurs mains et c'est à eux d'assumer cette pression de ce soir, se qualifier pour la finale dans quelques mois et puis la gagner, quoi.
Manu,
moi Franck, j'ai une question à te poser parce que beaucoup de personnes disent à chaque fois que pour satisfaire en fait les désirs et les ambitions de l'Olympique de Marseille, il fallait toujours avoir un entraîneur avec beaucoup de personnalité, un peu le caractère volcanique, comme ça a été le cas ces derniers temps. Alors qu'en fait, on s'aperçoit quand même que les derniers entraîneurs qui ont du succès, qui ont gagné, ce sont des entraîneurs qui intériorisent, qui sont calmes, comme Gilly, comme Deschamps, comme toi. Donc, quelque part, je me dis, est-ce que tu penses que Habib Bey, j'ai vu encore sa façon de célébrer avec le stade Vélodrome lors de la dernière victoire, ouais. Je l'ai trouvé vraiment très porté sur le côté émotionnel. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il faille vraiment un entraîneur qui soit qui a un côté sanguin en fait?
Non. Même si bon, le dernier match pour je pense Habib Bey était compliqué. Il fallait à tout prix qu'il le gagne. Ouais. Lyon à Marseille, ben, il faut gagner. Paris à Marseille, il faut gagner aussi. Et puis, il venait de prendre l'équipe, donc c'était un match particulier pour lui. Donc peut-être qu'il a, il a peut-être montré des émotions plus importantes qu'il faut. Mais non, non. Moi, j'ai travaillé puisque depuis, enfin, en 2006, quand je suis arrivé à Marseille, je faisais le match à l'adversaire. Donc j'ai travaillé avec en direct avec Eric Guéret, je veux dire, après avec Didier Deschamps, même Élie, je veux dire, voilà, c'était pas des gens qui exprimaient beaucoup de choses, non, il faut au contraire avoir beaucoup de concentration sur les matchs.
Il faut temporiser, il faut calmer, quoi, l'émotion.
Exactement, il faut pas se laisser aller dans cette euphorie qui est ambiante, hein, lorsque l'OM gagne. Et même, je veux dire, ça se situe à tous les niveaux, je veux dire, même au niveau des présidents et tout, tous les présidents, tous les entraîneurs qui sont arrivés, qui d'un seul coup ont cru qu'ils étaient des champions du monde parce que Marseille, quand vous gagnez, ben, vous appartenez à la ville, vous appartenez aux gens. Et voilà, c'est tous les jours qui vous disent que vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Mais bon, il faut rester les pieds sur terre et continuer à travailler.
Franck, quel conseil tu donnerais à Habib s'il y avait un conseil à ressortir, même si tu dois en avoir plusieurs?
Bah, de rester lui-même, voilà, de continuer, de bosser comme s'il était ailleurs, et puis surtout pas être réactif à tout ce qui se passe autour, quoi. Moi, je me rappelle, voilà, si j'ai une anecdote, c'est que je savais ce qui se passait dans les journaux et à l'extérieur quand je regardais la tête de mes adjoints quand je rentrais le matin dans leur bureau. Je n'ouvrais pas le journal parce que il faut rester vraiment focus sur ce qu'on a à faire. C'est très très important.
Un petit souvenir, une anecdote avec Souleymane Diawara quand même, Franck Passy.
Avec Souley. Si, mais
t'as
une anecdote.
Ah bah oui, une racontable, hein, Franck. Hein,
laquelle?
Mais une bonne, en fait. Elle n'est pas très valorisante pour les journalistes, mais bon, je me rappelle que j'étais adjoint d'Eli, et on devait faire des allers-retours et tout ça. Bon, c'était le jour où on casse le rythme, donc bon, c'était pas très important de le faire. Et puis, je dis à trois joueurs, bon, si vous arrivez derrière moi, parce qu'à ce moment-là, je continue à courir un peu, si vous arrivez derrière moi sur la longueur, ben, on en fait une de plus. Sauf que j'ai été pris avec un micro à 50 mètres par un journaliste, et le lendemain, on a dit, waouh, Franck Passy, il n'est pas écouté par Souleymane Diawara, par, je sais pas qui c'est qu'il y avait, je crois qu'il y avait Dédé au milieu, You. Enfin, bon.
Voilà. Franck, il sait que je l'ai toujours écouté, il y a toujours eu du respect.
Non, Soulet, t'as toujours été un
Franck,
grand pro.
Le sait.
Bon, après, Soulet, tu m'as dit que c'était pas même, un coach si exceptionnel.
Si on avait eu Soulet dans l'équipe une année auparavant, on aurait probablement été champion.
C'est bête. On aurait pu voir Marseille champion.
Merci beaucoup, Franck, d'être venu dans Rotten Sans Flamme.
Merci beaucoup. Embrasse.
Par contre, Manu, il va falloir creuser dans ta mémoire un peu.
Pourquoi? Vous allez jouer ensemble?
Je vais
faire
des conneries. Non, exactement.
Quand, à quel moment alors?
Mais tout à l'heure, il a dit qu'il était vieux. Donc je prends un peu.
93-94, je pense.
Bah, c'était
toi, tu as débuté avec Tutu.
Bah, j'ai commencé en 88-89.
Franck, mais tu lui en demandes un peu trop. Tu sais, il y a quelques semaines, on a reçu son frère, il l'a pas reconnu.
Ouais, donc, c'est vrai. En plus, c'est vrai.
Bon, bah alors,
on a les mêmes parents.
Donc, lui en veut pas. Gérald, je suis vraiment désolé.
Gérald, c'est son frère.
D'ailleurs. Je suis tombé malade à Noël, donc j'ai fait qu'une moitié de saison.
Bon, Gérald va bien, Franck?
Ça va, très bien.
Tu l'embrasseras parce qu'avec son pied gauche, moi, quand j'étais gamin, il m'a bien fait rêver.
Merci, Franck. Merci beaucoup d'être venu.
Merci, Franck. À bientôt.
Et dans un instant, Rotten se chauffe. Le foot est-il devenu horrible, comme le dit Ruud Gullit? À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.